décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 23. Salut Manu.
Salut Luc.
Bien, nous sommes tous les deux.
Oui, pour une revue de presse normale, voilà. Cet article.
Qui sera la dernière de la saison parce qu'on va finir un petit peu plus tôt, je serai au loin dans les semaines qui viennent. Donc, premier article, Numérama au Parlement européen, les députés pirates s'allient avec les Verts, un article de Julien Lausson.
Donc c'est 4 députés et effectivement, ils se rapprochent d'une formation qui leur paraît compatible. Ils demandent des directions de commission, des vice-présidences de groupe pour avoir un peu plus de poids au niveau des nouvelles lois et des nouveaux règlements européens.
Archimag, Common Voice, une grande base de données vocales gratuites créées par Mozilla pour tous ceux qui travaillent sur la reconnaissance vocale. Un article de Clémence Jost.
Alors c'est un gros sujet en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec la voix. On peut contrôler dans nos maisons de plus en plus d'appareils qui se font avec la voix. Il y a des interactions où on écoute les ordinateurs énoncer les choses à haute voix. Et donc là, c'est Mozilla qui se propose de faire un truc un peu nouveau.
Permettre en libre de travailler sur de la reconnaissance vocale, un sujet important. Une belle initiative, et ça fait plaisir de la part de Mozilla, dont on était un peu critique ces derniers temps. La Libre Belgique, et si on divorçait de Google, de Microsoft, d'Apple, d'Amazon, un article de Scolas Sétienne.
Donc, qui parle en grande partie de l'association Framasoft, des gens qui veulent dégoogliser Internet et faire en sorte qu'on récupère le contrôle de nos données à travers des briques de logiciels libres qu'on puisse nous-mêmes, chacun, ou dans des associations, dans des groupes, installer, sous la forme notamment de chatons.
France Culture, GAFAM, le déclin de l'Empire américain, un article de Nicolas Martin.
On est en plein dedans les GAFAM, c'est terrible. Donc là, le déclin, ça parle bien du fait que les GAFA sont probablement trop gros pour certains acteurs, notamment pour l'Europe, qui n'a pas de GAFA en son sein et qui n'est pas tellement enchanté de cette mainmise.
Next Impact, imposer l'interopérabilité aux plateformes, les doutes et la prudence de Cédric O, un article de Marc Ress.
Dont on va parler juste après.
Industrie et technologie, pour ses 10 ans, l'autorité française de la cybersécurité affiche ses ambitions, un article de Kevin Poirot.
Cette autorité, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Ce sont des gens qu'on aime bien, parce que ce sont des gens qui travaillent sur la sécurité et qui utilisent et qui font aussi du logiciel libre. Ils le proposent, ils le mettent en avant, notamment pour la sécurité, donc ça fait super plaisir.
Libération, logiciel libre, il faut mettre la technologie au service des villes et des citoyens, donc c'est une tribune signée avec beaucoup de gens. Emmanuel Grégoire, Jean-Christophe Becquet, François Elie, Jacob Green, Jean-Baptiste Kempf et Cédric Thomas.
Donc ça parle des citoyens, des villes, les collectivités territoriales, donc c'est pour ramener un petit peu le sujet plus bas que ce dont on discute souvent. Souvent on discute au niveau des multinationales et des États. Et bien là, avec le logiciel libre, on peut ramener de l'innovation dans les villes, on peut essayer de partager, on peut refaire des nouveaux modèles. Il y a un deuxième article du Monde qui parle des communs numériques à Barcelone, donc il y a des choses qui sont au niveau local, qui font plaisir.
À noter que les signataires de cette tribune sont des libristes, notamment Jean-Christophe Becquet qui est à l'April. Donc notre sujet de la semaine, c'est cet appel à l'interopérabilité des géants du web. On en avait déjà parlé et on avait relayé cet appel à signature.
Donc
lancé
c'est
par
hébergé par la Quadrature du Net.
Tout à fait. Au final, 69 organisations ont signé.
Alors le titre, c'est « Pour l'interopérabilité des géants du web ». Donc justement, les GAFAM.
Et oui. Et donc pour comprendre ce que c'est que l'interopérabilité...
Oui, c'est un peu compliqué comme sujet. Hein.
Voilà, déjà, ça fait 8 syllabes, ce qui est beaucoup.
8 syllabes, hein, ouais. C'est beaucoup trop pour un cerveau normal. Hein.
Donc l'interopérabilité, c'est cette idée d'avoir des systèmes qui sont en mesure de communiquer les uns avec les autres à partir d'une norme ou en tout cas d'un accord, de quelque chose où on va décrire précisément de façon transparente comment ça marche, qu'est-ce que c'est censé faire et pour que les systèmes puissent échanger entre eux indépendamment de leurs infrastructures et que ce soit vraiment des systèmes complètement différents.
C'est la même chose que la compatibilité.
Alors c'est pas la même chose puisque la compatibilité c'est j'ai un système potentiellement fermé, j'ai soit fait un accord avec quelqu'un dans un coin en disant oui tu peux faire un truc qui va marchouiller peut-être partiellement ou uniquement dans telle et telle condition que j'aurais choisi, ou à l'inverse, je n'ai pas envie que tu fasses quelque chose qui marche avec mon système, mais toi, tu y vas quand même. On a l'exemple des capsules de café compatibles avec les machines, par exemple, des choses comme ça.
Oui, de la belle compatibilité.
Voilà, ce sont des sujets qui sortent complètement de l'informatique.
Et ça marche aussi pour les imprimantes et les cartouches d'imprimantes.
Exactement. Un domaine dans lequel l'interopérabilité, par exemple, marche très bien, c'est les prises électriques. Voilà, on a, dans une bonne partie de l'Europe, des prises qui sont normées, le courant est normé, la forme, etc., des prises fonctionnent, quelle que soit la maison ou le pays qui répond à ces normes où on peut brancher la prise et ça marche. Et c'est pas uniquement parce qu'il y a une tolérance ou parce qu'on essaie de comprendre, c'est que tout ça est très clairement décrit, c'est public, c'est transparent. Alors pourquoi c'est important ? Parce que aujourd'hui les gens ils utilisent notamment par rapport aux géants du web, ils utilisent plein de plateformes. Alors on a beau appeler à aller ailleurs, sur Mastodon, sur des réseaux libres, etc., on sait que certains vont le faire, mais que la majorité des gens y sont, et ils n'en bougeront pas. Et notamment parce que ce choix de partir serait potentiellement assez coûteux pour eux. On a par exemple en tête Nicolas, qui est un membre de sa famille qui n'utilise que WhatsApp et qui refuse d'aller ailleurs.
Donc pour discuter, voilà. Effectivement...
Et donc le choix de Nicolas à ce niveau-là, c'est soit il arrête de parler aux membres de sa famille, à ce membre-là, soit il met ce truc dégueulasse qui s'appelle WhatsApp sur son téléphone et il continue à avoir un contact. Et effectivement, c'est un choix et je pense que je ferai le même. Mais l'interopérabilité, c'est cette solution qui permet de dire que personne ne soit prisonnier, que chacun puisse faire les choix qu'il veut sans enfermer les autres et que si décide dans un système où on espionne, où on pique toutes ses données, eh ben, au moins il peut partir parce que d'autres systèmes utilisent les mêmes éléments.
Il faut que ça fonctionne en temps réel, on puisse communiquer, on puisse utiliser deux plateformes qui vont fonctionner ensemble.
Voilà, et on est bien dans un rapport d'égalité, c'est-à-dire que c'est pas un gros réseau qui dit « Bon, alors je tolère que vous veniez faire ceci, cela chez moi, et puis le jour où je change d'avis, tout s'arrête. » C'est vraiment une norme qui vient de l'extérieur, d'où l'appel au niveau de régulateurs publics de dire « Il faut forcer à ce que tous ces services fonctionnent ensemble. »
Alors, c'est pas toujours un fonctionnement parfait. Il y a parfois des éléments qui restent incompatibles dans certaines parties. On avait parlé du W3C et des normes qui définissent le web, qui définissent Internet, donc HTML, CSS. Bien, on sait qu'il y a eu pas mal de choses et de difficultés parce qu'un navigateur pouvait interpréter la norme d'une certaine manière, un autre navigateur d'une autre. Et on sait que Google ont probablement joué avec leur site web, Google Mail, YouTube, pour bidouiller.
Oui, on avait fait une émission là-dessus sur une accusation portée par un ancien de Mozilla de dire Google, alors que les pages web, c'est censé être interopérable, aurait consciencieusement fait des petits sabotages dans le temps, pas nécessairement des gros trucs, puis ils auraient corrigé après, mais pour générer toute une série d'incidents qui faisaient que les autres navigateurs marchaient pas bien avec leurs propres produits qui sont dominants. Effectivement, on voit que c'est la nécessité d'avoir un régulateur externe, c'est que quelqu'un qui joue pas le jeu, qui est de mauvaise foi, il faut pouvoir lui tomber dessus et le rappeler à l'ordre.
Alors, il y a une difficulté dans les normes et les standards, c'est qu'il ne faut pas qu'ils figent un domaine. Le sujet avait été porté sur les problématiques de chargeurs de téléphone portable. La Commission européenne avait voulu imposer des chargeurs interopérables, on va dire, ou en tout cas normés, pour éviter qu'on se trimballe tous avec différents chargeurs. Enfin, c'était juste l'horreur. Et Apple était en tête des horreurs dans ce domaine-là. Eh bien, la Commission européenne a poussé pour que les fabricants de téléphones s'adaptent à un standard à peu près universel, l'USB. Alors à l'époque, c'était de l'USB-B, mais la Commission n'avait pas fait un système hyper fermé, hyper contraignant, ce qui est un avantage et un inconvénient, mais l'avantage, c'est que ça a permis à l'USB-C d'émerger, c'est la nouvelle norme pour les chargeurs de téléphones portables et autres appareils.
Et puis il y a aussi la forme de la prise, parce qu'on sait bien qu'en USB, il peut y avoir genre 3 ou 4 formes de prise différentes, entre les carrés, les espèces de machins là qui...
Alors ça, c'était les USB-B, et justement, l'USB-C est beaucoup plus propre de ce point de vue-là.
Oui, l'USB-C a aussi l'avantage de marcher dans les deux sens, on a plus ce problème de j'essaye dans un sens, ça marche pas, je retourne, et en fait, c'était le premier sens qui était le bon.
Donc il y a eu une évolutivité du standard qui était plutôt positif. Ils n'ont pas bloqué la chose, mais quand même, les fabricants vont dans le même sens.
Sauf Apple, bien sûr, parce que eux, ils ont des clients qui sont prêts à payer le câble beaucoup plus cher. Comme ça, ils peuvent changer la prise pour faire renouveler tout le matos régulièrement. C'est très intelligent.
Alors, on peut parler d'un écosystème dans ces cas-là. On a vraiment une cage dorée qui comprend plein de choses ensemble. Apple, ils avaient fait tout un travail là-dessus. Ils voulaient accaparer les gens dans leur entièreté. Et effectivement...
Ils l'ont fait.
Et quand on a plusieurs systèmes qui ne fonctionne que les uns avec les autres, on est un peu bloqué. Quand on veut évoluer, il faut tout faire évoluer d'un coup. On est vraiment coincé dans cette cage dorée. Ça reste compliqué.
Alors, on comprend bien que l'interopérabilité, ça va pas du tout dans le sens de l'intérêt des GAFAM.
Eux,
leur intérêt à eux, c'est d'enfermer les gens. Donc forcément, si on fait un système d'interopérabilité où on dit les gens vont pouvoir parler dans tous les sens comme ils veulent...
On pourrait même parler de monopole à ce niveau-là. Mmh. D'ailleurs, il en est question dans les articles. Aux États-Unis, le gouvernement est en train de creuser sur les idées. Est-ce que Google, est-ce que Facebook, ce ne sont pas des monopoles? Eh bien, l'interopérabilité, c'est une manière de casser un petit peu ces monopoles, de permettre aux gens de s'en sortir sans galérer, comme on l'a fait avec les banques, comme on l'a fait avec les téléphones portables. Mmh.
Donc cet appel, Cédric O, donc juste la lettre O, c'est son nom de famille, qui est notre secrétaire d'État au numérique, a réagi sur ce point et dans l'intérêt de la population française, il a dit que c'était excessivement agressif pour le modèle économique des GAFAM.
Alors c'est toi qui rajoutes pour le modèle économique des GAFAM, mais effectivement, ça a l'air de l'embêter un peu, cet appel à l'interopérabilité, c'est peut-être trop fort dans son esprit. Alors on ne sait pas exactement si lui va proposer d'autres choses.
Alors je l'invente pas, il l'a dit. Il a jugé toutefois excessivement agressif pour le modèle économique des grandes plateformes.
Bravo, effectivement, c'était pas la partie mise en chapeau. C'était un peu plus loin, t'avais raison.
Et j'ai lu l'article. Donc on voit que notre secrétaire d'État au numérique fait le choix de l'enfermement des citoyens français parce que c'est rentable pour les grosses plateformes.
Donc nous, ça nous embête. On n'aime pas trop qu'il y ait des géants en plus états-uniens, sous le contrôle de l'État américain qui travaille avec les données de nos citoyens. C'est pas très pratique et il faut permettre justement de dégoogliser tout ce système-là. Allez voir Framasoft et les chatons, ce serait une bonne alternative. Puis l'interopérabilité, ça aurait été un bon chemin pour s'éloigner tout ça.
Et oui, mais sauf que ces GAFAM, je pense que dans l'esprit des gouvernants, ils ont beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, il y a énormément de débats sur l'anonymat, sur les discours haineux, etc. Et derrière, on a vu également des affaires avec les gilets jaunes, mais toute forme de contestation. Où l'État, on sent ce besoin, le pouvoir, ce besoin de reprendre ça sous contrôle en se disant les gens discutent dans tous les sens. Il y a des informations vraies et fausses qui circulent partout. Et du coup, comment on fait pour contrôler tout ça? Et finalement, si on se met dans leur position et dans une idée d'avoir du contrôle social et de mieux maîtriser ce truc-là, eh ben les GAFAM, c'est quand même leurs meilleurs alliés potentiels.
Ce sont des géants qui sont à la hauteur des États, et quand les présidents de ces géants se déplacent, ils sont accueillis un peu comme des chefs d'État. Donc ils ont de l'importance, et effectivement, on peut supposer qu'il y a des interactions entre tous qui leur permettent de travailler main dans la main.
Et donc Cédric O, lui, se dit « non, on va pas casser le modèle des GAFAM, il faut qu'on bosse avec eux pour contrôler tout ça ».
C'est un peu dommage, un peu embêtant.
Ça révèle des choses. Moi, ça me fait penser à la période des Lumières et de la Révolution française.
Rien que ça ?
Et oui. À l'époque, sous l'Ancien Régime, il y avait, par exemple pour les poids et mesures, il n'y avait que des exceptions. C'est-à-dire que dès qu'on arrivait sur un territoire, il fallait aller voir les gens qui étaient responsables des poids et mesures et on les payait pour qu'ils puissent valider que tel machin faisait bien ceci, bien cela. Il n'y avait pas de truc pareil et donc on était obligé de passer à la caisse à chaque fois. Il y avait des monopoles, il y avait des systèmes qui étaient très pratiques pour contrôler le commerce, pour contrôler la circulation, etc.
C'était aussi très coûteux et pas du tout pratique à l'usage.
Et tout était long et compliqué. Et on était effectivement coincé pour chaque territoire. Et la Révolution française a rationalisé tout ça, mis en place le système métrique et avec des définitions claires de telle sorte que tout le monde utilise la même unité et qu'on ne soit plus absolument dépendant d'un système complètement incompréhensible, complètement local, etc. Et ce qui a été un accélérateur de développement, d'organisation et d'efficacité.
Et donc on peut voir les normes et standards un petit peu de cette manière-là. C'est un moyen d'imposer, certes, de l'extérieur, mais de faire en sorte qu'il y ait des choses qui fonctionnent mieux ensemble par la suite, et donc de passer outre tous ces blocages.
Effectivement, donc on est, à mon sens, vraiment dans cette logique. Est-ce qu'on est dans l'idée de faire une société plus efficace, plus rapide, et on a beaucoup de défis à relever à l'avenir, ou est-ce qu'on est dans une société où on met des tuyaux, des robinets, des compteurs,
des monopoles,
qui permettent à des groupes de faire de l'argent en contrôlant leurs utilisateurs.
Donc on peut espérer une évolution du monde entier pour plus d'interopérabilité, plus de logiciels libres, parce que c'est une manière d'être interopérable en implémentant soi-même ses propres briques.
Oui, après, effectivement, on peut aussi ne pas faire de l'interopérabilité avec le logiciel libre, mais en tout cas, c'est une démarche qui est intéressante parce qu'on ne dit pas aux gens « passez au libre, le libre c'est mieux », même si c'est le cas. On leur dit « mais n'enfermez pas les gens, ne soyez pas enfermés, utilisez les trucs propriétaires si vous voulez, mais au moins exigez le fait que vous puissiez discuter avec tout le monde et que tout le monde puisse discuter avec vous ».
Alors, à la semaine prochaine ?
Eh bien non, comme je le disais en introduction, on va s'arrêter là, on va faire notre pause estivale, on arrête un petit peu plus tôt.
On se retrouve en septembre.
Là, amusez-vous bien pendant cet été et à septembre. Salut !